gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu, vous êtes bien à la causerie, comme tous les dimanches. Est-ce que je l'ai peut-être déjà dit ça?
Ah ouais.
Je l'ai peut-être déjà dit, c'est parce que je m'entendais pas, alors bon. Pardon, on reprend. Donc, oh là là, j'ai complètement foiré ce lancement.
Non mais ça partait bien.
Oui, hein, c'est vrai.
C'était bien, sympa, mais c'est pas bien arrivé.
Ok, bon, alors, comme d'hab, on va vous rappeler... Ah non, je vais peut-être avant ça présenter ce qui est là. Je suis désolé, je suis complètement à l'ouest.
Est-ce que tu peux mettre tes idées dans l'ordre, en fait?
Ça va être compliqué, ça a demandé du temps, là. Alors, autour de la table aujourd'hui, nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Il y a Fab aussi qui
est là. Salut.
Et il y a Clara qui a la technique.
Bonsoir.
Et Jean-Yves qui a donc fait une ouverture dans le désordre.
Dans le bordel. Et on continue aussi par saluer celles qui ne sont pas là. Il y a Emma et il y a Nadège à qui on fait des bisous.
Ben oui.
Et puis ben maintenant on peut peut-être vous donner les infos pour nous contacter. On a un mail
lacausericanu@gmail.com
et on a aussi un blog. Est-ce que je te le demande?
Alors on va essayer. Donc c'est Radio Canu.
Non, c'est non. Blog. Non.
Blog. Radio Canu/.org/lacausericanu.
Ouais.
Sinon vous presque. Tapez les blogs de Radio Canu La Causerie vous, dans votre moteur de recherche, vous nous trouvez. C'est simple.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben on est presque au point.
Ouais. J'ai juste un tout petit truc à dire. Vas-y. Par rapport à l'émission. J'ai reçu le message. Alors oui, Denis, j'ai reçu ton message, sache-le. Et oui, j'ai dit que les fêtes votives étaient des fêtes païennes. Et c'est pas vrai, c'est des fêtes pour des saints. La semaine dernière, j'ai dit ça. Voilà. Et on m'a dit, dis donc, arrête de dire des conneries à la radio, parce que voilà, donc je corrige. Pardon, mea culpa, j'ai dit une bêtise.
Voilà. Ça arrive. Hein.
Mais c'est bien, je trouve, ouais, qu'on nous dise, t'as dit une connerie. C'est qu'on nous écoute, au moins.
Donc, c'est vrai. Et ben, bah, ce soir, un format un peu plus habituel. On n'a pas d'invité, tout ça, tout ça. Donc, trois sujets. Et puis, ouais, on va causer autour de tout ça. Et ben, c'est Jonathan qui ouvre le bal.
Eh bien, oui. Et je vais vous parler de démocratie. Donc, avec cette petite phrase pour certains internautes, Error 404, démocratie not found, ça rappellera peut-être quelque chose à quelqu'un. Enfin, dans tous les cas, je vais vous parler un petit peu de démocratie, démocratie directe, démocratie liquide. Alors, pour commencer, je vous conseille d'aller voir La Toupie, qui est un dictionnaire internet des termes militants. Voilà, et qui nous dit que la démocratie directe est la forme première de la démocratie où le peuple exerce directement le pouvoir politique. C'est-à-dire que, bah oui, c'est le peuple qui décide et qui fait appliquer les lois qui décident. Ça marche dans une petite communauté, donc sur une société relativement restreinte en termes d'individus. Et quand on a une société un petit peu plus étendue, pour faire appliquer la démocratie, on parlera de démocratie participative. Donc toujours sur ce même site, on a comme définition implication des citoyens dans la vie politique et accroissement de leur rôle dans les prises de décision.
J'ai juste une question sur ce qu'on appelle restreint et élargi. C'est quoi restreint? C'est autour de 150 personnes à peu près? Genre Radio Canu, quoi.
éventuellement, ouais. Plus petit. Ça dépend à combien on peut se gérer en se rassemblant.
Ouais, c'est ça.
Si tu peux rassembler 1000 personnes quelque part pour que tout le monde puisse s'exprimer en même temps sur le même lieu.
C'est compliqué déjà.
C'est restreint. Ouais. Mais voilà, si tu ne peux pas, à ce moment-là, tu es obligé de toute manière d'utiliser des méthodes de représentation
D'accord,
pour la démocratie. Et d'où l'intérêt de la démocratie liquide.
On y vient.
qui, dans le principe de démocratie participative et représentative, va intégrer la dimension numérique. C'est-à-dire que tout se ferait, tout. En fait, c'est une expression qui a été utilisée et théorisée par le Parti Pirate. Donc le Parti Pirate, c'est un groupe militant à tendance démocratico-anarchiste. Enfin, c'est très bizarre.
Bah, il y en a qui les clashent chez les libertariens aussi.
Voilà, hein. c'est du moins qui se battent pour, on va dire que leur idée principale, c'est la liberté d'expression, de communication, enfin la liberté en général.
Leur premier credo, c'est surtout la liberté sur Internet.
Aussi.
À l'origine, je parle de
non, et puis c'est parce que c'est eux aussi qui instaurent. Bah, justement, vu qu'on parle d'Internet, puisque la démocratie liquide, c'est beaucoup ça aussi. C'est l'idée que l'on puisse disposer d'un outil de communication et de délibération et de diffusion très très direct. Donc, pour continuer là-dessus, qu'est-ce que c'est que la démocratie directe ? Ben, la démocratie directe, c'est donc, comme on disait, un moyen de faire en sorte que le peuple exerce directement le pouvoir politique. Et du coup, par cette notion de démocratie liquide, avec cet espace de participation directe, on pourrait éventuellement y arriver. Alors, comment le théoriser ? Alors, en 1999, il y a une charte de la démocratie directe qui a été écrite à Paris, que vous pouvez trouver sur www.ddfrance.com/charte.html. Et celui-là, je le dis bien parce que je l'ai noté. Et qui propose un fonctionnement par assemblée de plus en plus restreinte des citoyens pour en arriver à finalement une démocratie quasi directe. Même si elle se fait encore par représentation. Mais c'était une époque où finalement l'utilisation du web n'était pas aussi répandue qu'actuellement. Donc dans un second temps, on a un rassemblement pour la démocratie directe qui fait son apparition dans les années 2000 et qui a un site internet avec un petit peu qui explique un petit peu l'idée de démocratie, etc. Dans l'idéologie qui va défendre ce mouvement et qui dit « Nous nous opposons à tout ce qui peut porter atteinte à la démocratie et à la liberté ». Donc, c'est assez vaste.
Oui, c'est ça, c'est vaste et en même temps c'est très flou. Quoi.
Enfin, Mais quand on parle de démocratie, on parle d'un système de gestion d'une société et pas forcément d'une idéologie. Et quand on va mêler le système à l'idéologie, à ce moment-là, on va soit créer un parti, soit un mouvement, mais... Donc là, on s'éloigne de plus en plus d'une certaine idéologie qui serait libertarienne au final, et pour aller vers un système. Et aujourd'hui, en France, il y a un nouveau mouvement qui est apparu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Démocratie Moderne, donc démocratie-moderne.fr, et qui justement est un mouvement d'organisation de la société, c'est-à-dire de... comment dire ça ?
De gestion, en fait.
Voilà, de gestion, de système.
En fait, si je comprends bien, l'idée, c'est de poser un cadre, pas un fond. C'est le cadre pour comment on gère, en fait, et les prises de décision, les choses comme ça. Mais il n'y a pas derrière le fond de vers quoi on veut aller.
Exactement. Je suis clair dans ce que je dis. Voilà, on va dire, au niveau idéologique, il n'y a pas de prise de position.
L'idée, c'est au niveau... Ça renvoie à l'idée de constitution, je mets des guillemets dans ce que je dis, mais c'est-à-dire le cadre dans lequel on joue.
Ça serait un petit peu ça.
Ouais, d'accord.
Et donc ce mouvement, en fait, qui a été qui n'est pas un parti, mais qui défend des principes politiques qui sont des principes démocratiques, a vu le jour là il n'y a pas longtemps avec une pétition qui est apparue sur change.org, qui s'appelait « Rendons le pouvoir au peuple, exigeons une démocratie directe ». Et donc, ce mouvement se présente sous forme de site internet sur lequel il peut y avoir, enfin, on propose à tous les adhérents et tous les signataires de participer aux discussions sur la mise en place de cette démocratie directe. Et du coup, dans l'idée, ce serait faire en sorte que les citoyens soient acteurs et décideurs du type d'institution qu'ils veulent. Pardon. Mais aussi qu'ils aient le choix de leur représentation. Oui, parce que dans la notion de démocratie liquide aussi, il y a cette notion de pouvoir être représenté si on le souhaite et de ne plus l'être si on considère qu'on est mal représenté de manière assez facile par rapport aux institutions qu'on connaît aujourd'hui de représentation voilà, par le vote. Et donc, l'idée que défend ce mouvement aussi, c'est l'utilisation d'Internet comme outil de cette démocratie, comme outil de vote. Alors, pas mal de questions se posent autour de ça. Donc, le mouvement propose d'y réfléchir sur le site via des forums, donc où chacun peut participer librement. Et évidemment, il y a pas mal de questions qui se posent. Notamment le fait de, est-ce qu'on peut pirater ce type de système où tout se fait par Internet, voilà, est-ce qu'il y a des solutions pour sécuriser tout ça, voilà, est-ce que il y a des gens qui n'en ont rien à faire, qui de toute manière ne s'intéresseront pas plus aux questions politiques parce que elles sont accessibles depuis leur canapé que s'il fallait se lever un dimanche pour aller voter.
Ouais, c'est le fameux effet zapette, c'est ce qu'on Il y a quelqu'un qui décrivait ça en disant que la France n'a jamais eu autant d'émissions politiques à la télé. Et en fait, elles n'ont jamais été aussi peu regardées qu'en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choix d'émissions politiques, globalement, mais les gens ne les regardent pas. Alors bon, après, on peut critiquer la qualité, le machin et tout, mais je pense que entre toutes les chaînes qu'il y a, il doit y avoir quand même des choses où vous pouvez regarder les émissions politiques, mais en fait, les gens ne les regardent pas. Donc c'est un peu pareil pour le net. C'est pas parce que c'est présent que ça va forcément être... les gens peuvent se dire, je préfère jouer à Candy Crush, tu vois. Enfin, c'est... Je dis ça, non, mais c'est... Voilà. Oui. Je prends l'exemple le bateau, mais ouais.
Non, mais c'est des. De toute manière, c'est des questions qui sont réelles parce que même si sans forcément avoir la présence de cet effet zapette, des gens qui ne se sont pas réellement concernés par leur avenir politique, il y en a toujours eu. C'est pas. Ou c'est comme ce que tu me disais pendant la prépa, Fab, les gens qui n'ont pas la maîtrise d'Internet.
Ouais. Et c'est pas une question d'âge d'ailleurs. Hein.
Non,
ça
non,
peut
c'est
aussi être une question de goût, tout simplement.
Voilà, ou même de prise de position politique. Parce que, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit facteur excluant. Après, il y a toujours des solutions. Excusez-moi.
Tu t'éloignes des auditeurs et des auditrices.
Oui, non. Ce soir, j'ai un petit mouvement de recul.
Oui. T'as la bougeotte.
Voilà. Non, mais c'est des questions qui sont importantes à traiter. Et l'avantage de ce site et de ce mouvement, c'est que sans proposer des solutions toutes faites, elle propose aux visiteurs d'aller voir directement un petit peu, d'y répondre par leurs propres moyens, avec la culture qu'ils ont, enfin, que chacun a, au final, et d'essayer de répondre à des questions de politique directe, c'est-à-dire qui concernent la vie directement des citoyens. Et donc c'est un site de débat, c'est un site où on peut voir des articles et tous les comptes rendus de réunions du mouvement. Et en fait c'est un site qui se veut un petit peu interactif puisqu'il est à compléter avec tous les participants. Donc voilà. Alors, il y a un truc qui est intéressant sur ce mouvement aussi, c'est que c'est un mouvement qui a décidé de ne pas rester inactif, dans le sens où il y a une grosse réflexion autour des primaires citoyennes pour 2017. Donc, est-ce que le mouvement présente un groupe de personnes à la présidentielle, une personne, enfin, est-ce que le groupe se fait voir pour les présidentielles de 2017?
Et donc c'est un peu quand même bifurqué du truc initial de forum de discussion, enfin de discussion et qui a son sens, hein, enfin qui peut l'avoir, à quelque chose qui là finalement prend déjà un pas.
Il faudra du pont, pas du tout. Il faudra du fond, parce que tu peux pas présenter
c'est
quelqu'un
ça.
S'il n'y a pas
sans,
derrière une idée.
Sans programme.
Ouais.
Donc c'est l'idée en fait, c'est de réaliser le programme à partir de ce qui va être donné par les citoyens qui se sont inscrits au mouvement via le site. Donc c'est, en fait, voilà, c'est un système que propose ce mouvement-là, et non pas une idéologie. Et du coup, ce système permet à d'autres personnes de proposer des solutions, des idéologies, des choses qui feraient qu'on pourrait faire avancer la société, mais de manière démocratique. Donc voilà. Et je voulais, donc, le titre, c'est Error 404 Democracy Not Found, parce que c'est leur petit logo, on va dire, qu'ils avaient mis sur la pétition. Okay. Le premier signataire et celui qui a lancé la pétition s'appelle Pablo Debré. Mais bon, voilà, enfin, il dira volontiers que ça appartient à tous ceux qui décident de s'investir pour le mouvement. Et voilà. Et donc, dans l'idée, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que la démocratie en France, on a tendance à voir ça un petit peu comme une grosse blague. Mmh. Voilà. Les jeunes qui vont. Enfin, on reparlera des manifestations, mais. Le principe de manifestation, c'est aujourd'hui comme ça que le citoyen exprime son acte démocrate, alors qu'il pourrait aller voter, alors qu'il peut se rebeller d'autres manières, qu'il peut être en accord aussi avec son gouvernement, et que dans tous les cas, s'il est citoyen, il doit prendre à bras le corps la vie sociale. Et donc, c'est quand même un mouvement, là, démocratie moderne, le truc démocratie-moderne.fr, qui décide de provoquer les citoyens à grande échelle pour essayer de créer une dynamique. Donc ça me semblait intéressant d'en parler.
C'est pas, enfin, moi, si je peux juste, c'est pas pour me dédouaner de ce que tu viens de dire, mais c'est juste parce que moi ça me parle pas, je préfère le dire à l'antenne, voilà, parce que moi personnellement je ne crois pas. Ah, je veux dire, je crois pas à la démocratie, c'est horrible de dire ce mot-là, mais c'est pas ce que je voulais dire.
Parce que tu es un dictateur.
Non, du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est que je ne crois pas, en fait, aux formes d'organisation de la démocratie quand, en fait, elle se réappuie sur des choses existantes. Et je pense que, pour moi, quand on repasse après par la notion de présenter quelqu'un à la présidentielle, c'est, moi, j'étais pas trop jeune, mais quand j'étudie un peu ce qu'a fait Coluche, ça m'amuse pas. Parce qu'en fait, c'était faussement rebelle à mes yeux, parce que quelque part, ça amenait quand même l'idée que, eh ben, il nous fallait un leader, il nous fallait quelqu'un pour nous représenter. Mais ça, c'est mon
avis. Voilà. Après, là, il y a pas de principe de rébellion.
Oui, mais c'est ça. Dans tous les cas. Et comme j'ai un côté plutôt d'être en rupture.
C'est pas présenter forcément une personne, c'est essayer de présenter. Enfin, dans l'idée, c'est présenter un groupe de personnes à la première.
Ouais, je sais pas. Enfin, je suivrais ça. De toute façon, je regarderais ça. Mais moi, je sais que ça, ces initiatives-là, et c'est un peu comme les indignés, comme des choses comme ça. Il y a toujours un problème pour moi avec la légitimité d'un mouvement et de rester dans le cadre purement légitime qui est celui qui nous est finalement imposé par ceux qui ont construit ce cadre-là. Et qu'à mes yeux, le cadre tel qu'il est aujourd'hui est dès le départ biaisé. Parce que moi, je pense franchement, et je vais le dire, ça va choquer, je sais, mais c'est pas grave, que la Révolution française n'était pas une révolution du peuple, mais une révolution bourgeoise. Mmh. Et qu'en fait, au final, les institutions qu'on a sont des institutions bourgeoises et qu'en fait, elles sont faites pour maintenir une certaine élite à la tête de l'État. Et que moi, voilà, c'est ma culture anard, hein, vous le savez, ceux qui écoutent l'émission et tout. Mais par contre, je trouve ça intéressant et je le suivrai. Voilà, mais c'est pas le suivre en son. Je regarderai ça de loin.
Non, mais après là où c'était, c'est une autre réflexion que on avait eue pendant la prépa, c'est que dans l'anarchie, le libertarisme.
Libertarisme, c'est l'autre côté. Alors, non, c'est libertaire et libertarien, c'est l'autre
pensée,
côté.
Dans la pensée libertaire, voilà, ouais. Dans l'anarchisme, il y a une. Il y a quand même c'est un principe idéologique.
C'est une philosophie politique.
Voilà, c'est une philosophie politique. Oui. Là, dans le mouvement démocratique qui est proposé, il n'y a pas d'idéologie politique, en fait. Pas encore. Mais dans tous les cas, voilà. Donc, le principe, c'est que c'est encore neuf.
Ah oui, c'est pour ça que je regarderais ça, mais au même titre que j'avais. Personnellement, regardez ce que allaient donner les indignés, ce que donnerait Podemos en Espagne. Enfin, voilà. Je suis pas hermétiquement fermé, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que moi, tous ces mouvements ont tendance des fois un peu à m'inquiéter parce que, je vais le dire autrement, c'est bien de travailler sur le cadre, mais je pense qu'il faut des fois savoir exploser le cadre existant pour en créer de nouveaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pas essayer de réformer systématiquement le cadre qui existe. Voilà. Si un jour, je sais, peut-être j'irai écrire ça sur le site.
Donc voilà.
Ok, on se fait une pause musicale ?
Ah bah oui.
Allons-y.
C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. À maudire le salaud, l'enflure, un tartuffe qui a dû vendre son âme avant de vendre des chaussures. Des godasses en peau de banane, un peu plus tard on se relève, en s'accrochant tant bien que mal à une vieille branche qui nous soulève. Nous demande si on s'est pas fait mal, là on dit Pierre-Henri.
Oh, c'est toi?
Lui il dit
Hey, je suis avec vous.
On se concentre sur le premier pas. Vieux mot est sûr, quand on est sous, c'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. Mais on résiste, on se rebelle, on fait face à l'attraction terrestre. Nos bras s'accrochent au ciel et nos guiboles s'occupent du reste. Et hop, bras dessus, bras dessous, tac tac, on repart au combat. On avance pas vite mais on est debout. Et ça c'est des trucs qui s'oublient pas,
c'est même des trucs qui pourraient. Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire.
Ah ça, rien que d'y penser,
pas nous, ça nous fait réfléchir. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. Et mine de rien, on se grille une blonde, on se dit que l'amour c'est pas si grave, et on se refait le monde sans que le monde ne s'en aperçoive. Alors on se dit qu'on l'a bien eu,
ouais.
Et que c'est pas lui qui nous aura,
non.
Et hop, la fête continue. Et on est là pour fêter ça.
Allez, super. Le chauffeur est dans le pré.
Les fans de Calais,
Henri,
les pléros de Ravel,
la famille Morales,
notre parfum,
Rio,
le cirque
Charles-Luc Guillotin,
Alain Lepret,
les souliers sont rouges,
Almarita,
Yannick Delaunay,
Sabine Brandy,
Sef,
Loïc Lantoine,
Vladimir Ansel,
la crevette d'acier,
la famille Diab,
debout sur le
Jacques,
le théâtre du fil, Chantier Cabaroc, Swing Gadget, Johanna Torres, Jean, Mike,
Hélène, François, Pierrot,
les Robins,
et Charlotte,
etc.
Oui. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière.
C'est pas nous, c'est pas nous, c'est bien Henri.
C'est pas nous qui marchons pas droit.
Et on a beau aller devant soi,
on se retrouve souvent
sur le derrière. C'est pas nous qui marchons pas droit.
Et voilà,
c'est le monde qui va de travers.
Ouais. Voilà. Pardon.
Ah, t'y étais presque.
Et c'était La rue qui est à nous avec Marchez pas droit.
Ouais, c'était bien, j'aime bien.
Voilà.
Et puis, j'aime bien La rue qui est à nous.
C'est sympa.
Ouais.
Et puis maintenant, c'est Jean-Yves avec la Légion d'honneur.
Merci, je vous remercie de tant de...
Et donc, non, a été nommé pour la Légion d'honneur, c'est au ça, mois d'avril.
C'est ça.
Pour la Légion de Pâques.
De Pâques.
Oui, il y a une truc
de
Pâques.
Ah oui, c'est vrai, il y a une Légion de
Pâques. Jean-Yves, oui, de la causerie.
C'est ça, pour tout le bienfait pour que j'ai apporté à cette nation, évidemment, par ma grandeur, hein, et bien évidemment. Enfin bon, voilà. Je vous laisserai le reste de mon discours pour plus tard. Non, je voulais revenir sur la Légion d'honneur, effectivement, parce que dernièrement, il y a eu un peu de bruit en se disant, oh là là, François Hollande, il a filé le 6 mars. Une médaille de la Légion d'honneur à Mohamed Ben Nayef, qui est un prince héritier d'Arabie Saoudite. Et ce serait, selon Jean-Marc Ayrault, hein, le ministre des Affaires étrangères, une tradition diplomatique. Et en fait, je me suis demandé, tiens, est-ce que le problème, c'est éventuellement à certaines personnes à qui est donnée cette légion? On peut citer Maurice Papon aussi, hein, qui oui. lui est mort avec sa Légion d'honneur. Hein. Maurice Papon. Voilà. Et où est-ce que c'est la Légion d'honneur en elle-même? Et je me suis dit, bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de ce qu'est la Légion d'honneur, à, enfin, d'où elle vient, à quoi elle sert, etc.
C'est un ruban rouge posé sur les vestes. C'est ça,
et ça peut se transformer, attention, selon ton grade.
Ah ouais, y a des grades et tout.
Ah bah oui, attends, déconne pas. Enfin, donc voilà. Et alors déjà, je commence par vous dire qu'en fait, en France, il y a 93 000 personnes actuellement qui ont la Légion d'honneur. Et cette Légion d'honneur, en fait, elle est née quand? Elle est née le 19 mai 1802. Elle a été créée par un certain Bonaparte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ah, le grand démocrate Napoléon.
C'est ça, la grandeur de la France, tout ça, ouais.
Le gars que personne ne veut dire que c'était un génocidaire et qu'en plus c'était un dictateur.
C'est ça.
Ah oui.
Non, c'était vraiment un très grand homme. Hein. Et donc, lui, il a créé ça. C'était dans l'idée de récompenser la bravoure militaire et le mérite civil. Attention, là, je vous recite du texte quand même. Hein. On y est. Hein. Et donc, il invente ça. Enfin, il crée ça. Suite à l'abolition des ordres nobiliaires, donc tout ce qui touche à la noblesse, suite à la Révolution, et qui pour lui sert à reconnaître les mérites acquis par les citoyens en dehors de toute considération sociale et héréditaire, et ce dans tous les secteurs d'activité du pays. C'est pas beau quand même?
Ça me permet de rappeler juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand à la télé ou ailleurs, vous lisez machin comte de Paris ou machin duchesse de truc, en fait, ça n'existe plus en France.
Oui,
hein, donc mais depuis 1802.
Oui, mais ces gens-là continuent de rêver dans.
Ah bah, c'est juste politique de se faire continuer à appeler duchesse, princesse, comte et compagnie.
Ah bah, ils continuent de rêver de revenir. Hein.
C'est ça.
On n'a pas coupé les têtes à tout le monde. Alors, Bonaparte, en fait, à l'époque, on lui avait dit. On lui a reproché d'avoir créé un nouveau hochet, quoi. Après les titres de noblesse, voilà maintenant la Légion d'honneur, en fait. Et il aurait répondu, on appelle cela des hochets, eh bien, c'est avec des hochets qu'on mène des hommes. Donc déjà, tu te dis, c'est... Il y a une notion quand même derrière de pourquoi on crée un outil. Ensuite, ce que je voulais aussi apporter comme truc, c'était est-ce qu'on demande la Légion d'honneur, tout ça. Non, en fait, vous ne la demandez pas.
Et je me suis toujours posé la question, en fait, comment on se retrouve sur la liste, en fait?
Ah, mais ça, c'est parce que tu as des gens bienveillants autour de toi.
Ah bon?
Qui donnent ton nom, qui proposent en tout cas. Bon, c'est déjà arrivé pas mal dans le passé de la France, hein, de donner des noms. Mais là, pour une fois, c'est pas pour te... Enfin, bon, bref.
Il y en a qui portaient des trucs, mais que c'était
vrai,
pas pour les
mêmes
raisons.
C'était pas pareil, ouais. Tu t'en sortais pas. Et donc, en fait, c'est des gens qui proposent. Hein. On propose, alors on peut le proposer, je crois, aux députés ou à des sénateurs qui ensuite font remonter. Hein. Ils font remonter au président qui lui donnera son aval. Parce que quand même, c'est le représentant de ce pays, dans n'importe quel pays d'ailleurs, tu vas me dire. Et donc voilà. Et c'est souvent des ministres qui reçoivent donc effectivement ces trucs par des associations, par des services divers.
Par des potes aussi.
Hein ?
Par des potes
et
aussi.
Et par des potes aussi. Comme Jean-Marc Ayrault le disait, la tradition diplomatique a aussi son rôle à jouer dans tout ça.
Ça veut donc dire que là, par exemple, pour la Légion d'honneur dont tu parlais au début, oui. J'ai perdu le nom du prince.
Mohamed Ben Naïef.
Voilà. C'est donc Jean-Marc Ayrault qui allait demander à François Hollande, dis donc, ça te dirait pas de donner un petit ruban rouge à mon poteau?
On peut partir certainement sur un truc qui s'approche de ça.
Oui, parce que je pense pas qu'il se parle autrement vraiment.
Non, ou après, est-ce que c'est peut-être Monsieur Dassault qui a dit tiens, j'ai un pote à qui j'ai vendu des trucs.
Ah oui, parce que c'est à eux qu'ils ont vendu des mirages. Donc,
bah oui, donc d'accord. On s'entretient. Enfin bon, je vais pas trop dévoiler quand même la chute de ma chronique.
Oh, désolé.
Comme c'est naze. Enfin bref, pardon, je reprends un peu plus sérieusement tout ça. Et donc, en fait, sur l'article moi, que j'avais retrouvé, c'est Jacques Tardy, qui en fait est un dessinateur de BD, et il est politique, il est anarchiste, il est très proche de cette idée-là. Et lui, en fait, il l'avait refusé, publiquement. Et en fait, dans mes recherches, ils disent... Normalement, on refuse très rarement publiquement.
C'est pas vrai.
Alors
ça.
Tu dis bah pourquoi en fait c'est bizarre. En fait c'est parce que normalement l'État, avant de le proposer dans le journal officiel, ils sondent un petit peu les gens qui veulent décorer. Parce que c'est seulement une fois que ton nom est inscrit au journal officiel que si tu dis non, c'est un refus public. Donc encore une fois, je pense que c'est des manières de ne pas offrir un boulevard à ceux qui détestent la Légion d'honneur de pouvoir le faire.
C'est-à-dire, si un jour on te propose et que tu veux la refuser, ne le dis pas avant que tu sois écrit pour pouvoir après le dire et que vraiment on le sache que tu l'as refusé. C'est ça l'idée.
Ouais, c'est ça. Mais après, lui, Jacques Hardy, par exemple, lui, il le disait. En fait, lui, il l'a appris un jour par un pote qui est venu, qui lui a dit, au fait, tu as une Légion d'honneur. Et le gars, il l'a jamais su, quoi. Enfin, personne ne lui a jamais rien demandé. Donc voilà. Et ils ont quand même instauré un truc encore plus démocratique hein, dans cette belle babiole qu'est la Légion. C'est depuis 2008, il y a 50 personnes issues du même département qui peuvent soumettre une proposition d'admission au rang de chevalier de la Légion d'honneur d'une personne de leur choix. C'est quand même génial. Donc je compte sur 50 de mes amis quand même pour aller proposer mon blaze, parce que quand même, enfin bon, j'en reviens à ma grandeur, tout ça, mais on en parlera après.
Je lance une pétition.
C'est ça.
J'étais en train d'imaginer 50 supporters de foot qui proposent le joueur qu'ils aiment bien, 50 supporters de basket, ça peut devenir...
C'est
déjà ridicule la Légion d'honneur, mais là ça peut tomber dans le grand guignol. Hein, ça...
Bah oui, après en même temps ils rapportent sûrement... quelque chose, il rayonne pour le pays qu'il représente. Enfin, c'est toujours quelque chose autour de ça. Et ensuite, alors pardon, hein, je continue dans cette chronique complètement déconstruite, par les avantages. Je me suis dit, tiens, est-ce que en fait avoir un petit truc, ça dépend de la taille que t'as, enfin quelle rang t'es dans la Légion d'honneur. Est-ce que ça te rapporte quelque chose? Est-ce que alors c'est très drôle. Au premier regard, non, pas tant que ça. Limite, ça te coûte du pognon. C'est-à-dire que si tu reçois une décoration, il faut déjà que tu achètes ta décoration. Alors, ça peut aller de 172 euros à 200 balles, à 927 euros aussi. Mais ça, en même temps, c'est, payer sa grandeur, ça a un prix. Donc voilà, donc, je commence à mettre de l'argent de côté quand même. Et voilà. Et ensuite, il faut que tu t'acquittes de droits. Non, comment ils appellent ça? Si, c'est des droits à la chancellerie.
Ouais.
Hein, et qui sont à hauteur environ pour un chevalier de 20 euros. Donc il faut payer pour pouvoir être reconnu de chevalier, etc.
Ouais, c'est comme le chevalier des arts et des lettres, c'est pareil, il paye.
C'est exactement le même principe. Et ensuite, bon, ça te coûte du pognon, d'accord. Alors, je me suis dit, bah attends, je vais continuer quand même, voir si ça en rapporte un peu. Bon, ça en rapporte un petit peu. Il y a une rente annuelle qui est de 6,10 € pour un chevalier et à peu près 36 € pour celui qui a de grands croix. Alors bon, tu dis, bon, c'est pas avec ça que les gens ils vont vraiment être riches. Hein. C'est pas l'idée première.
Souvent
en fait.
Que ceux qui ont la Légion d'honneur sont déjà riches d'ailleurs au départ.
C'est pas vrai. Okay. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres trucs qui sont un peu moins voyants qu'une cérémonie où on te remet ta breloque. Hein. Alors déjà, la cérémonie, c'est toi aussi qui dois l'organiser. Hein. C'est vraiment très drôle à observer ce truc-là. Donc, ceux qui font une cérémonie, c'est vraiment, ils en ont envie de leur... Non,
mais c'est marrant parce que ça va quand même dans le sens de ce que Napoléon disait. C'est-à-dire que ça te donne une sorte d'importance, parce que c'est toi qui organise ta cérémonie, machin et tout. En fait, ça sert juste à t'auto-valoriser connement, quoi, quand on y réfléchit.
Un petit peu. Et alors, un autre avantage, c'est que suite à ça, en fait, Napoléon, en 1805, il a mis en place des maisons d'éducation de la Légion d'honneur qui sont réservées aux filles des légionnaires. Donc c'est des établissements non mixtes encore aujourd'hui, tous réservés donc ces internats aux filles, aux petites filles et arrière petites filles de légionnaires.
On va juste rappeler pourquoi, c'est parce qu'à l'époque les garçons avaient accès aux écoles militaires.
C'est ça.
Et que comme Napoléon était légèrement un petit militaire quand même, il estimait que les garçons ils avaient qu'à aller à l'école militaire, Saint-Cyr, tout ça.
C'est ça. Alors j'ai quand même cité le truc parce que je trouve le cadre d'éducation est quand même vachement sympa. Genre il y a une maison d'éducation des Loges qui est installée dans l'ancien couvent des Loges au cœur d'un parc de 8 hectares en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ce collège accueille 500 personnes. On dirait un peu un spot publicitaire. Hein. Ils vont peut-être m'approcher. La maison d'éducation, elle, de Saint-Denis, elle est entourée d'un parc de 24 hectares. C'est magnifique. Qui, là aussi, accueille 500 femmes en lycée, en hypocagne-cagne et BTS de commerce international. Voilà. Donc c'est assez joli, c'est sympathique. Et bon, les frais de scolarité, c'est pas non plus une école hein, publique dans le sens où bah faut filer de la thune. Donc l'année de collège, elle a 1800 balles. L'année de lycée, elle a 1700 balles. Et pour les classes préparatoires et le BTS, c'est à 1900 balles.
Mais euros. Hein. Mais genre, il n'y a pas des aides ou des trucs comme ça ?
Si, alors ils disent qu'il y a des aides selon le rang social dans lequel tu es, etc., etc. Et chose importante qu'il ne faut surtout pas oublier dans ces écoles, c'est ton petit uniforme qui te coûtera quand même 450 balles. Parce que quand même, hein, représenter la France, tout ça, ça a un prix quand
même.
Tu veux
dire donc que l'État entretient une école qui n'est pas en accord avec ce qui était après mai 68, c'est-à-dire la mixité, l'égalité homme-femme et le fait de faire des études ensemble.
C'est à peu près ça.
Ah ouais.
Mais c'est pour la grandeur de la France, en fait. Ouais,
non, mais ça vaut le coup de le dire.
Et alors, on s'arrête pas à l'école. Parce que quand même, qu'est-ce qu'on fait de nos vieux jours? Et puis bon, si on veut rester entre nous toute notre vie, ben moi j'ai bien envie de mourir aussi au milieu des riches, quoi. Donc ils ont aussi un système d'entraide. Hein, c'est une cotisation à la société d'entraide des membres de la Légion d'honneur qui donne accès à des résidences. Hein, il y en a une, c'est au château du Val à Saint-Germain-en-Laye. L'autre, c'est la résidence Coster Solviane à Saint-Raphaël. Voilà, et là où en fait vous pouvez passer vos vieux jours en tant que décoré de la Légion d'honneur. Et ben voilà, en fait, moi ce que je me disais, c'est que ben, c'est l'État qui continue, qui a commencé en 1800, mais qui continue encore aujourd'hui, à faire sa petite cour autour de lui, de gens qu'il prend sous son aile. Et en même temps, quand tu prends quelqu'un sous ton aile, rarement la personne te crache dans la main. Donc ça fait une petite cour qui défendra, je pense quand même souvent, l'État, la nation.
Et la personne qui leur a donné la breloque.
Évidemment. Et parce que, alors après, c'est pareil, hein, sur les écoles là, dont je vous ai parlé, le programme, attention, hein, je veux dire, moi je serais ravi que tout le monde puisse avoir accès à l'art, à la culture... Bon, quand même un petit peu moins à tout ce qui est autour du rayonnement de la France, de la mémoire de la France. Dans un truc qui a été créé par Bonaparte, on peut s'imaginer que ça a une lecture un petit peu partisane, on va dire, de l'histoire. Hein. C'est toujours...
Ouais, un peu comme l'ENS, quoi.
Ah ouais. Mais c'est pas Bonaparte.
Non, mais voilà.
Et alors après je me suis dit pareil en fait, vu que je suis tombé sur ce Tardy Jacques Tardy là qui avait refusé, bah, je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui l'ont refusé? Et effectivement, il y a une liste quand même assez longue et je voulais partager quand même alors certains noms et prénoms de ces personnes, mais aussi quelques phrases de refus. Parce que je trouve que c'est assez joli. Alors je peux vous citer Hector Berlioz qui l'a refusé, Albert Camus, Georges Brassens, Jean-Paul Sartre, Léo Ferré, Pierre-Marie Curie, même Bourvil. Ouais, Bourvil.
Et Bourvil était, contrairement à ce que les gens croient, Bourvil était très très engagé en fait.
Et ben voilà.
Ouais. Non mais même vraiment politiquement.
Ouais. Ah non mais je connais pas, donc je vais pas dire que non.
Non mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est surprenant.
Il y avait aussi Aimé Césaire qui l'a refusé, Jacques Prévert, enfin Catherine Deneuve aussi. Tiens. Et voilà, je voulais citer deux phrases, je vais vous en citer deux. L'écrivain Marcel Aimé qui, lorsque le président de la République de l'époque, Vincent Auriol, lui propose donc cet insigne de la Légion d'honneur, il répond: votre Légion d'honneur, monsieur le président, sauf votre respect, vous pouvez vous la carrer dans le train. Je trouve que c'est joli.
Il n'était pas très à gauche par CDB, mais bon.
Non, mais je, trouve que, c'est toujours très joli d'aller contre une autorité désignée, on va dire. L'autre, c'est le peintre Courbet, qui a peint L'Origine du Monde. Hein. Mmh. Oh, L'Origine du Monde, un truc qui est interdit sur les réseaux sociaux, je crois, hein, ouais, parce que ça montre... Oh, l'entrejambe d'une femme.
Le clitoris, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière.
Ah oui.
Ah ouais, on fait des liens dans la causerie.
C'est incroyable. C'est incroyable. Et avec tout ça, on n'a pas une Légion d'honneur, mes chéris. Pas bon. Non. Et lui, alors je vais terminer avec ça, parce que je suis un peu long, je suis vraiment désolé. Et lui, il a répondu: souffrez, monsieur, que je décline l'honneur que vous avez cru me faire. J'ai 50 ans et j'ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi: celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est celui de la liberté. Et je trouve que justement, on retombe vraiment sur ce truc-là, c'est que plus qu'une reconnaissance en fait de l'État sur des savoirs ou autres, enfin même des capacités sportives de certains,
ou de la bravoure,
ou de la bravoure ou autre, c'est vraiment une manière de s'approprier des personnes et justement leur parcours, etc., au nom de l'État, quoi.
Comme le Panthéon, en fait.
C'est tout ce truc-là. Donc voilà, donc je me disais, bah tiens, peut-être que la prochaine fois, plutôt qu'on s'énerve après qui on donne, enfin à qui on donne cette Légion d'honneur, peut-être qu'il faudrait qu'on s'énerve, bah, que cette Légion d'honneur continue d'exister, en fait. Mmh. Parce que c'est toujours une société de privilèges, en fait. Voilà!
Ouais.
Bon, bah.
Moi, juste un truc qui m'a fait rire, c'est faudrait pas oublier que Courbet, c'était le pote à Bakounine et Proudhon. Donc
ah,
ça
oui.
explique peut-être pourquoi il a refusé.
C'était un vil anarchiste.
Oh,
moi.
Oh là là. Mais un très bon peintre.
Et ben, on y va pour de la zic. Vous êtes bien sur France Musique. Non, je déconne, vous êtes toujours la causerie. Hein. Bah ouais, attends, classique, c'est pas réservé. On fait ce qu'on veut. Alors, on vient de s'écouter, toujours sur Radio Canu, on vient de s'écouter Absence. C'est Nuit d'été 4. C'est une mise en musique par Hector Berlioz. Et le chant, c'est Régine Crespin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.
C'est très beau.
Et ben, on passe au dernier sujet, désolé d'avoir mangé un peu de temps. Vas-y Fab, tu voulais nous parler, je crois, de... T'as vu le film ? Tu verras les manifs.
Ouais. Allez, réveille-toi, toi derrière là, parce que je sens que ça arrive. Oui, alors, t'as vu le film, tu verras les manifs. Pourquoi ce titre énigmatique, hein,
oui.
Vous me dites là.
Pourquoi ?
Alors en fait, ça part d'un simple constat. Vous avez vu qu'il y a quelques manifs en ce moment. Et ça part en fait non pas du fait qu'il y ait des manifs, ça me paraît à peu près normal, mais du fait que dans les manifs, il y a des choses qui sautent aux yeux. Alors je suis pas le seul à avoir eu cette réflexion, il y a plusieurs personnes qui ont fait des articles, parce qu'on retrouve dans les manifs des choses qui sont issues de la culture dite entertainment, donc plutôt majoritairement hollywoodienne, mais en gros cinéma, télévision et BD. Voilà. Et ça a surpris pas mal d'observateurs des mouvements sociaux de trouver des traces de ces choses-là. Alors, la plus connue, c'est le masque de V for Vendetta, qui, après le film, s'est retrouvé à être l'emblème des Anonymous. Voilà. Et j'ai réussi à le dire. Alors, et donc, c'était l'emblème des Anonymous. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le masque qu'ils utilisent est vraiment celui du film. Parce que si vous regardez la BD, il y a une légère différence. Il n'est pas dessiné tout à fait pareil. Donc, c'est vraiment celui qui est issu de la culture hollywoodienne, pour le coup, et du film des sœurs, maintenant, Wachowski, qui était autour de V for Vendetta. Donc voilà, ça déjà, c'est la première chose qui a été un peu surprenant pour les observateurs. La deuxième, c'est l'arrivée du fameux signe, vous savez, deux doigts pliés et trois doigts tendus, que l'on tend en partant du cœur vers l'extérieur, voilà, et qui vient en fait du film Hunger Games, et c'est un film qui est en quatre volets, et ça vient des livres Hunger Games aussi, qui eux sont en trois volets, donc il vaut mieux lire les livres que d'aller voir les films. Et donc, tout ça pour dire que c'est intéressant parce que c'est un signe qui a servi notamment, alors je vais pas dire de bêtises, en Thaïlande et à Hong Kong, dans les gens qui manifestaient pour plus de démocratie. Et ils utilisaient ce sigle-là. Et en France, on l'a retrouvé dans les manifs avec notamment le fameux J-Moqueur qui était tagué. Alors le J-Moqueur, c'est une petite broche que porte l'héroïne qui s'appelle Katniss et qui est un oiseau, voilà, enfin un jet, hein, donc son nom l'indique, avec une flèche, voilà, parce qu'elle elle fait du tir à l'arc dans les films. Elle est archée, pardon. Et donc du coup, c'était drôle parce qu'on l'a retrouvé dans plusieurs manifs, alors que ce soit en France, en Espagne, il y a des gens qui l'ont observé aussi en Grèce. Et on voit en fait ce j'aime au cœur, c'est-à-dire vraiment... mais pourtant, c'est un emblème qui n'existe pas en tant que tel, parce que c'est un emblème qui vient d'une fiction, à 100%. Alors, il y a deux pistes, en gros, qui vont venir. Il y a celle de la récupération par Hollywood, en gros, et celle, en fait, des gens qui disent qu'on détourne les codes. Alors, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet... Il y en a un qui dit, bah oui, en fait, c'est juste du détournement de code. C'est un peu comme quand on reprend le Big Brother de 1984 et qu'on le met comme étant le gars qui nous observe tous pour dire, on est dans une société où tout le monde nous regarde. Alors là, je dirais oui, sauf qu'il y a un truc, c'est que le livre, déjà, à l'origine, est un livre politique. C'est-à-dire que quand George Orwell écrit 1984, c'est un roman politique. Donc après, on reprenne l'imagerie de Big Brother, paraît plutôt cohérent dans le sens où c'était aussi fait pour ça. Alors que quand même, quand la nana qui a écrit Collins, ça s'appelle, c'est ça. C'est moi et Clara, c'est Collins qui a écrit. Merci.
C'est ça.
Et qui a écrit Hunger Games, elle le dit elle-même. Elle a écrit ça, mais elle n'y met pas le fond politique que tout le monde y met. C'est-à-dire que elle, ce qui l'intéressait, c'était d'écrire une histoire d'amour à travers un monde en reconstruction par une révolution. C'est comme ça qu'elle décrit son livre. Mais elle n'y met pas derrière un fond politique très poussé. Vous voyez, voilà, même si après chacun peut y piocher ce qu'il veut, et que le livre est quand même légèrement politisé, vu qu'on est quand même dans, on va affronter un dictateur, voilà. Mais en fait, finalement, Star Wars aussi, si on regarde ça comme ça, parce qu'on affronte un dictateur et puis on le fait tomber, vous voyez. Donc en fait, si on commence à dire que tout ce qui repose sur, parce qu'est la mécanique des romans habituels, c'est-à-dire il y a un méchant, il y a des gentils et le gentil gagne à la fin, est politique, on va plus s'en sortir. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'aspect pour dire les deux visions qu'il y a. Celles qui disent, eh ben, on récupère les codes et on les détourne, c'est-à-dire qu'on en fait des outils pour la lutte et autres et autres. Et ceux qui disent non, c'est plutôt les codes qui vous rattrapent. C'est-à-dire, c'est que vous vous conformez à ce que l'on vous montre comme étant la rebellitude. Voilà. Je reprends les mots d'un article que j'avais lu où la personne disait on n'est plus dans la rébellion, on est dans la rebellitude. Parce qu'en fait, on se conforme aux codes que Hollywood, que la BD nous donne pour devenir des rebelles. Alors la personne qui a écrit l'article, je ne me souviens plus de son nom, pardonnez, j'avais oublié de le noter, elle disait, c'était une femme qui disait, il y a deux aspects. Le premier, c'est ce qu'on voit émerger depuis les années 70, qui est qu'il faut porter un uniforme pour être rebelle. C'est-à-dire que si vous êtes anarchiste, vous habillez tout en noir, vous avez un drapeau noir et vous êtes tout en noir et vous marchez en faisant la gueule et vous êtes en noir. Voilà, parce que vous êtes en colère. Et vous êtes anarchiste, d'accord? Si vous êtes communiste, vous avez à peu près la même tenue, mais vous mettez un peu de rouge et vous mettez des docks rouges, et puis vous mettez des lacets et vous avez un drapeau rouge parce que ce drapeau noir c'est pour les anarchistes. Et par contre, vous faites aussi la gueule et vous marchez. Hein, ça, c'est, voilà, ce principe. Et elle disait dans son article, attention, si vous êtes une féministe radicale, vous devez avoir les cheveux rasés que d'un côté, une mèche rabattue et vous êtes habillé avec des vêtements dépareillés parce que c'est comme ça et c'est le code du féminisme radical. Et vous marchez. Et vous vous faites pas trop la gueule, mais un peu quand même. Voilà. Et en fait, elle dit tout ça, c'est issu en fait, non pas de notre façon de faire, mais de ce que l'on nous a imposé. Parce qu'elle a fait elle a regardé un petit peu, et elle s'est rendue compte que les films, souvent, ou les BD, ou les livres, précédaient le fait de porter ces tenues. Et elle, ça la surprend énormément. Elle dit par exemple, la tenue tout en noir des anarchistes, ça vient plutôt de la façon dont étaient représentés les anarchistes par l'État sur les affiches, et la façon dont ils étaient représentés dans les romans réactionnaires, comme étant des aspects négatifs, parce que le noir, c'est la couleur du diable. Et elle dit, au final, on a adopté ça. Alors, elle dit, peut-être dans le but de le retourner au départ, en disant, bah oui, je m'habille comme ça, parce que voilà, et je le retourne. Sauf qu'au final, on n'a fait que se conformer aux clichés qu'on nous avait collés sur le dos. Et elle disait dans son article, allez voir les anarchistes de 1936 qui se battaient contre le franquisme, ils n'étaient pas habillés avec des tenues spécifiques d'anarchistes, vous voyez.
Et même qu'ils ne tiraient pas tous la tronche.
Oui, en plus, ils ne faisaient pas la guerre. Voilà, et en plus, ils ne faisaient pas tous la gueule. Et elle dit, c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Et elle parlait pareil pour les communistes. Elle dit que finalement, l'imagerie communiste aujourd'hui qui est revenue est celle qui a été imposée via la propagande télévisuelle et la propagande cinématographique de l'URSS. Parce que c'était le communiste vaillant, les cheveux bien coupés, le machin, prêt à aller partir au combat, et qu'au final, ce n'est que de l'imagerie. Mais ce n'est pas en fait le choix individuel et personnel des gens. Et elle fait le parallèle avec la société d'aujourd'hui, où elle dit que finalement, dans ce qu'elle appelle la rebellitude, on retrouve les mêmes codes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui voient au cinéma que la nana un peu badass, qui sait se battre et qui... ouais, même badass est un mot créé par Hollywood. Je l'emploie moi-même. La nana qui sait se battre, qui est une femme forte et tout, elle est habillée comme ça, elle a les cheveux rasés, elle a des tatouages qui montent jusqu'en haut du cou, vers l'oreille, et puis elle a machin. Et ben, elle disait dans son article, regardez à quoi ressemblent aujourd'hui les gens qui militent dans son mouvement, elle, parce qu'elle est anarcha-féministe, et elle disait, mais mes copines commencent à toutes ressembler à l'héroïne qui est à côté de Katniss dans le film, quoi. Vous voyez, et ça l'inquiète, parce qu'elle dit, mais quelle est l'individualité réelle, et quel est le fait de se recoller aux codes qui nous sont finalement imposés par Hollywood. Voilà, moi j'ai pas de solution, vraiment, te le dire quelque chose.
Non, c'est juste, en plus je trouve que ça, on retombe dans un dress code.
C'est ça.
Et dans quelque chose, et c'était, je sais plus, c'était Bakounine ou qui disait ça, c'était l'uniformité c'est la mort, la diversité c'est la vie.
C'est ça. Ouais.
Et qu'en fait, en croyant contrer un système qui serait oppressif, on devient nous-mêmes nos propres oppresseurs en nous conformant à des choses, quoi.
Dans plusieurs articles que j'ai lus, les gens disaient, en fait, on finit par se rentrer dans les cases dans lesquelles on veut nous faire rentrer. C'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire qu'on nous oriente vers « identifiez-vous ». Or, c'est un petit peu... ça m'a fait rire, parce que dans un article là qui était écrit par quelqu'un qui écrit sur le site, je me rappelle plus le nom, ça va, c'est Ouverture Libertaire, je crois que c'est ça, ou quelque chose comme ça. Et il disait, en fait, c'est terrible parce que, il y avait une chanson, hein, Les Anarchistes de Léo Ferré, et il disait, cet avocat en cravate, avec des allures de démocrate, vous ne savez pas qu'il est anarchiste. Et en fait, il dit, on est passé de ça, en fait, au fait de s'ultra-identifier. Et il dit, en fait, c'est valable, y compris pour les démocrates. Il dit aujourd'hui, les gens, enfin démocrates au sens large, je ne reviens pas sur le sujet de départ, mais ce qu'il appelait les gens qui appellent à voter. Ils ont un look, un style qui correspond à leur parti politique. voyez ? Et en fait, ils pensent qu'on le fait plus par mimétisme et pour s'identifier que par réelle volonté de le faire. C'est-à-dire, moi je suis chez les écolos, donc je dois être à peu près habillé comme ça, parler comme ça, je dois pas trop avoir les cheveux trop courts ni trop longs, vous voyez ce que je veux dire ? Moi je suis chez au Parti Socialiste, donc nous c'est un petit peu, on est la gauche sérieuse, donc on n'hésite pas à mettre la petite chemisette, le machin. Et en fait, dans l'article, il décrivait un petit peu tous les stéréotypes qu'on finit par avoir. Et en fait, pour lui, pareil, il pense que les stéréotypes nous sont plutôt imposés par le visuel qu'on nous met dans les films, dans les machins, dans les trucs, et qu'on nous met à la télé, parce que l'homme politique, lui, il est aussi dans du spectacle. Et on revient en fait à cette fameuse société du spectacle dont on parle souvent, et en fait, voilà, on est en plein dedans, quoi. Et moi, ça m'a vraiment interpellé, de voir effectivement des codes hollywoodiens repris dans des révoltes partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment c'est questionnant, quoi.
Mais c'est marrant, ce que tu disais dans la prépa aussi, c'est que je pense aussi que ça permet de repérer les gens.
Ouais, c'est ça.
C'est que c'est plus que de faire entrer dans un code vestimentaire ou un petit côté consumériste. Mmh. Il y a aussi la volonté d'afficher les personnes directement dans la rue.
Et je pense qu'on finit par s'auto-afficher.
Des délits de faciès.
Ben oui. Et quand je disais faire rentrer dans des cas, c'était dans cet esprit-là aussi. Mm. Parce qu'un État, il est super content quand il peut identifier tous ceux qu'il voit au premier coup d'œil. Hein. C'est le principe du truc. Voilà. Et donc, c'est la fin des lignes brouillées, ce qu'on appelait les lignes brouillées dans les années 60. Et donc, du coup, voilà, c'était une réflexion. Alors, j'ai pas de solution. Je dis pas que c'est vrai, que c'est faux. Mais moi, je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant à ouvrir parce que je pense que c'est un sujet de réflexion sur nos rapports aux autres. Et je vais donner un dernier exemple à Lyon, à la manif qui a eu le 9, non pas le 9 du tout, le 31, je vais y arriver. Oui, moi je vois pas le temps passer. Le 31, il y a eu une manif et j'ai vu un super beau panneau tenu par deux jeunes filles étudiantes et qui disait un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Alors dit comme ça, on se dit mais qui a dit ça? C'est Bakounine, c'est Marx, c'est Lénine, c'est, vous voyez, tous les penseurs, c'est Che Guevara qu'on remet sur des t-shirts pour tuer l'idée révolutionnaire qui était derrière. Eh ben non, c'est Ben Parker. Alors qui est Ben Parker? Eh ben c'est le tonton de Spider-Man. Donc voilà. Et oui, c'est le tonton de Spider-Man qui a dit cette phrase dans les comics et dans les films. Et là on se dit bah voilà. Est-ce qu'on est dans le détournement d'une phrase qui vient d'Hollywood ou est-ce qu'Hollywood nous impose notre façon de parler et même notre façon de penser la révolte ? Vaste débat.
Intéressant.
Donc, on peut planer un peu après ?
Allons-y.
C'est parti.
Planons.
We'll be right back.
êtes bien de retour sur Radio Canu dans la causerie. Et comme c'est la causerie, il est très rare qu'on passe des anges tout court. Donc ce sont des anges noirs que nous avons passé, The Black Angels, avec Bad Vibrations. Voilà.
Yes.
C'est psyché, très sympa.
On a bien plané. Et ben, vu l'heure qu'on est à la bourre, etc., etc., de toute façon, on n'a pas grand chose en news à vous donner. Mais,
mais ça, c'est à cause des déportés du Cambrien avant nous. C'est pas vrai du tout.
C'est pas vrai.
C'était pour leur faire un coucou. On est super content d'avoir une nouvelle émission avant nous. Elle était bien sympa en plus.
C'est vrai. Et ben, on va juste filer deux infos. Enfin, c'est surtout deux dates en fait de manif. Toujours en lien avec. Avec la loi dite El Khomri sur cette flexibilité, tout ça qui devrait nous rapporter bonheur à
la destruction du code du travail. Quoi.
Ah ouais, c'est vrai.
Ça plie.
Donc il y a deux dates cette semaine. Alors moi j'ai pas trouvé spécifiquement d'infos sur un site dit comme Rébellion, mais vous en trouverez certainement bien ailleurs.
Bah, allez sur les sites des différents syndicats déjà généralement.
Parce que c'est eux qui appellent à la manif.
Les appels. Alors, le 5 c'est les syndicats étudiants. Majoritairement, qui lance l'appel, soutenu et rejoint par les syndicats salariés.
Okay.
Et après, il y a...
Le samedi, c'est samedi 9 avril.
Et là, c'est l'inverse.
Voilà.
C'est les syndicats salariés qui appellent et rejoint par les syndicats étudiants.
C'est ça. En tout cas, deux occasions d'occuper la rue. Peut-être qu'un jour, on occupera les usines, on fera tourner tout ça à notre profit, ou en tout cas au profit du plus grand nombre, et pas juste pour les actionnaires, tout ça, tout ça.
Et il y a aussi, là-dessus, je vais dire juste une chose, c'est que je rejoins Laurent du Canu Info du jeudi, qui faisait remarquer qu'il y avait des collectifs informels qui appelaient, et c'était très bien, mais par contre, ils ne faisaient pas en sorte que ça puisse s'organiser. C'est pour ça que finalement, vous retrouvez les infos que sur les sites des différents syndicats, parce qu'en fait, personne ne veut se mouiller, entre guillemets, pour aller déposer une manif, et que par contre je pense pas que la majorité des gens ont envie de partir en manif sauvage pour l'instant, donc voilà, donc c'est une espèce toujours de quadrature du cercle à résoudre. Et voilà, c'est pour ça que les infos, vous avez du mal à les savoir ailleurs que chez ceux qui déposent les manifs, quoi, en fait.
Bah oui, c'est-à-dire qu'ils filent leur blaze à la préf, en fait, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Enfin bref, ben on termine là notre causerie, je crois bien.
Eh bien oui, et puis Clara, avec quoi on va se quitter?
Alors, on se quitte avec un titre de Sigur Rós, Vit Spilum Andalust.
Ça va, tu gères bien.
Ouais. Oui, voilà, j'ai fait islandais deuxième langue.
Après, le Sami, c'est ça?
Oui.
L'islandais?
Ouais.
Mais tu nous fais faire un tour du monde
un
du
tour
Nord.
Du monde,
c'est
voilà.
Le grand Nord. Hein. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit aussi, courage pour la semaine, et puis on vous dit...
Et bonne manif.
Ouais, aussi.
Ouais.
Et à la semaine prochaine. Manif. Des bisous, ciao.
Ciao. Et quel mot de mal, et quel nom.
nur tote Frauen sie schon.